à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 17 février 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. L'armée malienne est entrée dans Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. Au Nigeria, 21 personnes ont été brûlées vives par des bandits armés dans un village de Kaduna. Nouveau combat en Libye au lendemain de la résolution de l'ONU réclamant un cessez-le-feu. Le Soudan a signé un accord avec les proches des victimes de l'attaque contre le navire militaire américain USS Cole au Yémen en 2000. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'armée malienne est rentrée à Kidal, dans le nord du Mali, d'où elle était absente depuis des années et où son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le détachement est rentré dans le camp à Kidal. Près de 300 hommes ont été escortés par les casques bleus. Par ailleurs, la force française Barkhane a mis hors de combat plusieurs djihadistes et saisi une quantité importante de matériel dans le centre du Mali hier lors d'une frappe contre un campement de groupes armés terroristes, a annoncé l'état-major français. Au Nigeria, des bandits armés ont tué 21 personnes dans une attaque en représailles contre un village de l'état de Kaduna dans le nord du pays, Ekiabadou.
Des hommes armés à moto ont attaqué mardi le village de Bakali dans l'état de Kaduna. Ils ont tiré des coups de feu, brûlé des maisons et des véhicules pour se venger d'un raid mené contre leur camp par des membres d'une milice d'autodéfense selon les habitants. Les assaillants ont brûlé vifs 16 membres d'une même famille dont 6 enfants et 5 membres d'un groupe d'autodéfense. Selon des témoins, ils les avaient enfermés dans une maison avant de mettre le feu. Un porte-parole de la police a indiqué avoir reçu des informations sur une attaque par des bandits contre le village de Bakali, mais attendre encore plus de détails. La semaine dernière, la police a affirmé avoir neutralisé plus de 250 terroristes et bandits dans le cadre d'une opération de grande ampleur dans la région. Ce bilan n'a pas pu être confirmé de sources indépendantes. La zone où a eu lieu l'attaque abrite depuis des années des bandes de criminels qui volent du bétail et kidnappent des habitants en vue d'obtenir une rançon.
La Cour suprême du Nigeria a annulé l'élection du gouverneur de l'État de Bayelsa, candidat du parti présidentiel, quelques heures avant son investiture et a annoncé la victoire de son rival 4 mois après le scrutin. La Cour suprême a pris cette décision contre David Lyon au motif que son adjoint avait présenté de fausses informations à la commission électorale. Le tribunal a ordonné à l'INEC de déclarer vainqueur le candidat d'opposition Diri Dioye, deuxième du scrutin, et a déclaré qu'il devrait prêter serment vendredi. En visite à Dakar, le premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté les jeunes Sénégalais à faire preuve d'audace et d'ambition lors d'une discussion avec des étudiants de l'université Cheikhanta Diop. L'avenir appartient à ceux qui savent innover, a assuré M. Trudeau dans un amphithéâtre bondé où il a répondu aux questions des étudiants pendant 2 heures. Arrivé mardi soir, il a visité l'île de Gorée et rencontré le président Macky Sall. Monsieur Trudeau a appelé les dirigeants mondiaux à donner à leur jeunesse les outils nécessaires pour occuper les emplois de demain, estimant que l'éducation doit être un droit pour tous et non un privilège pour quelques-uns. En Libye, des combats ont eu lieu près de Tripoli, faisant au moins 1 mort et 4 blessés malgré une résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU réclamant un cessez-le-feu durable. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des témoins disent avoir entendu l'explosion de roquettes à Manchrou, à Lahadba, à une 30aine de kilomètres de Tripoli. D'autres roquettes sont tombées dans des quartiers résidentiels, tuant une femme et blessant des civils, selon Amin Al-Hashimi, porte-parole du ministère de la Santé. L'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, a suspendu des vols après la chute d'une roquette. Le porte-parole des forces du gouvernement d'Union nationale, Mustapha Al-Meji, a accusé les forces du maréchal Khalifa Haftar d'avoir violé de nouveau la trêve observée depuis le 12 janvier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier une résolution demandant un cessez-le-feu durable. Cette mesure réclame la poursuite des négociations de la commission militaire conjointe créée en janvier et réunissant les deux camps pour aboutir à un cessez-le-feu permanent. Réunie à Genève, cette commission s'est séparée samedi dernier sans parvenir à un accord. L'ONU a proposé de reprendre les discussions à partir du 18 février. La Libye sera aussi à l'ordre du jour à la conférence sur la sécurité qui s'ouvre demain à Munich, en Allemagne.
Le Soudan a annoncé avoir signé un accord avec les proches de marins américains tués dans l'attaque contre le navire militaire USS Cole au Yémen en 2000. Irénée Hermanoungbo nous en dit plus.
C'est un acte qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement de transition pour retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, a indiqué le ministère de la Justice soudanais. Conclu à Washington, l'accord précise que le gouvernement soudanais n'était pas responsable de l'attaque et n'a conclu cet accord que pour remplir la condition émise par l'administration américaine pour être retiré de la liste. En octobre 2000, deux kamikazes ont attaqué le destroyer américain USS Cole qui s'approvisionnait en carburant à Aden. L'attaque revendiquée par Al-Qaïda avait tué 17 marins américains et les deux assaillants. La justice américaine avait indiqué que les deux kamikazes se sont entraînés au Soudan où Oussama Ben Laden a vécu de 1992 à 1996. Pour Washington, le Soudan avait une responsabilité dans cette attaque, ce que Khartoum a toujours nié. En 2012, un juge a ordonné au Soudan de verser plus de 300 millions de dollars aux familles des victimes. D'autres magistrats ont demandé à des banques de débloquer des avoirs soudanais pour le paiement, mais en mars 2019, la Cour suprême américaine a annulé ce jugement pour des raisons de procédure.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'épidémie de coronavirus continue de faire des victimes. Plus de 1300 personnes sont mortes de la maladie. Le Japon a enregistré un premier décès. Abdourahmane Dia.
Il s'agit d'une femme de 80 ans qui a été testée positive. Le ministre japonais de la Santé qui a donné la nouvelle se veut toutefois prudent quant à la cause réelle de sa mort. Cette annonce intervient alors que le pays est aux prises avec un nombre croissant de cas sur un navire de croisière en quarantaine au large de ses côtes. Le navire de luxe où 44 cas ont été confirmés ce jeudi est devenu le rassemblement le plus important de porteurs du virus hors de Chine. Dénonçant des rumeurs irresponsables, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a une nouvelle fois souligné qu'il n'envisageait pas de reporter ou d'annuler les Jeux à seulement 162 jours de la cérémonie d'ouverture. Le Salon mondial du mobile de Barcelone, qui devait accueillir du 23 au 28 février plus de 100 000 visiteurs, dont 5 000 en provenance de Chine, a été annulé. De leur côté, les ministres européens de la Santé ont souligné la nécessité de se prémunir contre des ruptures d'approvisionnement en équipements de protection en provenance de Chine.
La diffusion d'une liste de 112 sociétés opérant dans les colonies israéliennes, considérées comme illégales par le droit international, illustre le parti pris anti-Israël de l'ONU, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Cette publication ne fait que confirmer le parti pris anti-Israël tellement répandu aux Nations Unies, a-t-il dit, précisant que les États-Unis n'avaient fourni aucune information au Haut Commissariat de l'ONU pour l'établissement de cette liste. Le gouvernement irakien a donné son accord à la reprise par la mission de l'OTAN en Irak d'activités de formation assurées par la coalition internationale, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg à l'issue d'une réunion des ministres de la défense de l'organisation transatlantique. L'accord de Bagdad était la condition exigée par les alliés des États-Unis pour renforcer la mission de l'OTAN en Irak. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a annoncé des poursuites judiciaires contre certains de ses militaires soupçonnés de bavure. En visite à Londres, le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a déclaré que les autorités judiciaires ont entamé des procédures et que les jugements seront annoncés une fois qu'ils seront définitifs. Le colonel Maliki a ajouté que ces procédures avaient été lancées sur la base d'enquêtes menées par l'équipe conjointe d'évaluation des incidents. et le Parlement syrien a officiellement reconnu comme génocide le massacre d'environ 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1917. Yerevan accuse le gouvernement ottoman d'avoir déporté les Arméniens en masse vers la Syrie, une marche forcée à travers le désert ayant provoqué une forte mortalité. Les survivants auraient ensuite été placés dans une vingtaine de camps de concentration situés dans le nord-ouest et l'est du pays, alors territoire ottoman. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Le gouvernement ivoirien envisage un programme pour capter des investisseurs pour la transformation locale de la noix d'anacarde, rapporte Financial Afrique. Selon le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le premier axe du programme concerne la subvention d'environ 7 milliards de francs CFA aux unités industrielles sur la période 2016-2019. Ensuite, un engagement d'investissement d'un montant de près de 1200 milliards de francs CFA pour une production de 761 000 tonnes en 2018. La Côte d'Ivoire n'a transformé que 44 000 tonnes de son anacarde. La société britannique BP veut investir dans le secteur pétrolier en Algérie, mais n'a pas encore fait d'offre de vente de ses actifs dans l'usine de gaz d'In Amenas, a rapporté mercredi l'agence de presse APS. BP espère lever environ 2 milliards de dollars de la vente de sa participation de 45,89% dans In Amenas. L'Algérie dépend des recettes d'exportation d'énergie pour une grande partie de son budget et de ses recettes en devise. L'Agence internationale de l'énergie a fortement révisé en baisse de 365 000 barils par jour ses attentes concernant la croissance de la demande mondiale de brut en 2020 à cause du coronavirus. L'agence prévoit une chute de la demande de 435 000 barils par jour au premier trimestre, la première contraction en plus d'une décennie.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Des violences dans un stade au Maroc ont fait des dizaines de blessés.
Oui, 13 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans des jets de pierres, dégradation de biens publics, possession d'armes blanches et fumigènes, selon la police. Les incidents ont éclaté à l'issue du derby perdu par le Raja Casablanca face à l'AS Far de Rabat 1-0 hier au stade Moulay Abdellah. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers pourchassant des supporters à la sortie du stade, des voitures saccagées, un photographe de presse le visage en sang, blessé au crâne. 19 véhicules de la Sûreté nationale, un camion de la protection civile, une ambulance et des voitures de particuliers ont été endommagées, selon la police. Les mises en cause ont été placées en garde à vue.
Hakim Ziyech quittera l'Ajax pour Chelsea cet été.
Oui, l'international marocain rejoindra Chelsea à compter du 1er juillet 2020. L'Ajax a indiqué avoir conclu un accord de 40 millions d'euros avec le club londonien. Cette annonce met fin à des jours de spéculation sur l'avenir de l'attaquant de 26 ans qui a rejoint l'Ajax en 2016 en provenance du FC Twente pour un montant de 11 millions d'euros. Hakim Ziyech a fait sa rentrée lors de la victoire de son équipe à Arnhem 3-0 en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas. Après une déchirure musculaire à un mollet en janvier, l'international marocain, nommé footballeur de l'année aux Pays-Bas en 2018, a jusqu'ici disputé 160 matchs officiels avec l'équipe première de l'Ajax et inscrit 49 buts.
Odion Ighalo est isolé à cause du coronavirus.
L'attaquant nigérian, recruté par Manchester United au mercato d'hiver en provenance de Chine, s'entraîne à l'écart depuis son arrivée en raison de craintes liées à l'épidémie de coronavirus. Le Time et le Daily Mail indiquent tous deux que le club a demandé à Ighalo de ne pas se rendre au centre d'entraînement pendant 2 semaines pour ne pas risquer de contaminer éventuellement les centaines de personnes qui le fréquentent. Le joueur de 30 ans devrait rencontrer pour la première fois ses coéquipiers pendant le week-end avant le choc contre Chelsea, lundi pour la 26e journée de Premier League.
Et Didier Six a enfin son contrat.
Oui, nommé à la tête du Sélé national guinéen depuis septembre 2019, Didier Six a maintenant signé son contrat. La Fédération guinéenne de football a annoncé la signature d'un bail de 3 ans avec le technicien français. L'ancien sélectionneur du Togo avait pris les rênes du Sili national après le départ du Belge Paul Putz. Avec lui, la Guinée partage la tête de son groupe de qualification pour la CAN 2021 avec le Mali 4 points. Prochaine sortie contre le Tchad le mois prochain.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Nigeria, les islamistes armés ont multiplié les attaques ces dernières semaines. Le président Muhammadu Buhari a été hué hier pendant son escale à Maïdougouri, où il était venu pour assurer que la sécurité va continuer à s'améliorer selon ses termes au lendemain d'une attaque qui a fait 30 morts parmi les civils. Pour commenter ce climat d'insécurité, John Linden a joint le professeur Oudou Ayouba Abdoulaye de l'université Amadou Bello à Zaria dans l'état de Kaduna.
C'est un problème très complexe. Quand Buhari est arrivé en 2015 avec un programme de renforcement de sécurité au Nigeria, bon, vous savez, en ce temps-là, Boko Haram était un peu partout. Il a réussi quand même à contenir Boko Haram dans l'état de Borno, vers Maiduguri. Mais le problème qui s'est présenté un peu après, c'était les otages pris par Boko Haram, surtout les filles de Chibok. Il y a eu aussi un problème dans l'armée elle-même. Certains officiers, on a découvert, collaboraient avec Boko Haram, donnaient des informations à Boko Haram. Vous voyez, donc, il y a eu tout ce problème-là. On découvre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les faits exacts. On découvre que Boko Haram n'a pas été maîtrisé comme on l'aurait souhaité. Donc, il y a des attaques un peu partout. Et là, la situation s'est empirée avec l'émergence du banditisme partout au nord du Nigeria, même en dehors du nord du Nigeria. Donc, vous voyez, c'est un problème d'insécurité générale. Il n'y a pas trop Boko Haram, il y a d'autres organisations en Sarou qui mènent des attaques. Ça devient très compliqué, même pour le président.
Justement, lors d'une visite à Borno, le président Buhari a encore assuré que la sécurité va continuer à s'améliorer. Il avait déjà, et vous l'avez souligné tout à l'heure, durant la campagne, fait la même promesse. Visiblement, les résultats tardent à venir. Qu'est-ce qui fait problème?
Non, vous savez, pour le président, il n'y a pas d'autre issue. Il ne peut qu'assurer, rassurer la population que les choses vont s'améliorer. La vérité est qu'il ne maîtrise pas la situation parce que les chefs militaires sont un peu dépassés, hein, il faut le dire, ils sont dépassés. Et pourtant, sur le plan logistique, hein, l'État a acheté des armes, hein, et puis... Maintenant, on ne sait pas. Même le président ne sait pas, parce qu'on se rappelle, une fois, il a dit qu'il n'était pas au courant que la situation était si mal.
Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a, lieu ou pas de faire appel aux contributions extérieures?
Je pense que le problème, c'est pas la tactique au sol. Le problème, c'est le renseignement. Je pense que le Nigeria n'a pas la capacité de renseignement. Il y a des choses qui se passent sans que l'État ne sache ce qui se passe.
Le professeur Ayouba Abdoulaye de l'université Amadou Bello à Zaria au Nigeria.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée malienne est rentrée à Kidal, dans le nord du pays, ville symbole d'où elle était absente depuis des années et où son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Le détachement est rentré dans le camp à Kidal. Ils sont près de 300 à avoir été escortés par les casques bleus. Idriss Fall a joint notre confrère Assikadaï Awer Zagan, directeur de la radio Tisdas à Kidal.
Effectivement, l'armée malienne est rentrée à Kidal et ils sont rentrés normalement, sans encombrement, sans aucun endroit. Et effectivement, ils sont rentrés et ils sont à l'air, ils sont positionnés dans leur camp, dans Gamali, camp qui est effectivement leur camp depuis les événements de 2010.
C'est une journée historique, si j'ose dire.
Ah, vraiment, c'est une journée historique parce que cette journée-là était attendue depuis la signature du processus d'Alger. Et on s'attendait à cette journée qui, finalement, après tant de péripéties, a vu le jour. Donc, c'est une journée très heureuse pour les signataires de l'accord et plus précisément et de manière particulière pour le peuple malien.
Est-ce que, par exemple, il y avait des membres de la CMA, les anciens rebelles qui étaient là pour les accueillir ou bien il n'y a pas eu de formalité?
Effectivement, la CMA s'est préparée effectivement pour leur rentrée. Donc, des dispositions étaient bien prises par la CMA pour qu'ils rentrent de façon tranquille, sans aucun encombrement, sans aucun signe qui puisse leur déranger. Donc, c'est pour dire que la CMA les a rencontrés, ils ont été reçus par le gouverneur de la région de Kidal en la personne de Sidi Mohamed Al-Misra.
Et on nous dit aussi qu'il y a un contingent d'anciens rebelles qui a intégré l'armée malienne déjà. Comment ça s'est passé?
Oui, mais il faut comprendre que cette armée reconstituée, la grande partie, sinon, c'est les éléments, effectivement, de la CMA qui étaient là et qui avaient à un moment donné l'appellation du MOC. Donc, ce sont ces éléments de la CMA qui ont été donc finalement intégrés et aller être formés et revenir sur cette appellation de l'armée reconstituée. Donc c'est pour dire qu'effectivement des anciens rebelles font partie de cette armée.
Et ils vivent ensemble dans le même camp maintenant?
Ah, ils vivent ensemble et c'est parce qu'ils étaient depuis très longtemps, depuis leur formation, ils sont ensemble, ils ont parcouru le trajet ensemble et présentement ils sont dans leur camp ensemble.
C'était Asika Dayag Werzagan, directeur de la radio Tisdas à Kidal.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Pluralisme, représentation, diversité, le thème de la Journée mondiale de la radio célébrée ce 13 février. Rendons hommage au pouvoir durable de la radio qui contribue à la promotion de la diversité et à l'édification d'un monde plus pacifique et plus solidaire, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Accompagnant les populations africaines depuis des générations, la radio constitue une plateforme pour le débat démocratique. Loin d'être bousculée par la technologie, elle a su s'adapter comme le relèvent les Sénégalais rencontrés par notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Jadis, la radio était un poste autour duquel l'on se regroupait pour écouter une information ou une émission. Aujourd'hui, l'usage de la radio est beaucoup plus centré et personnel, comme l'indique le vieil Adjane Ndiaye, qui ne cache pas sa nostalgie.
Autant les anciens utilisaient la radio pour écouter les informations à chaud. C'était ce qui se passait avec nos parents et nos grands-parents, car au-delà d'un simple appareil, la radio était un compagnon pour eux. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui est en train de disparaître avec la nouvelle technologie, notamment les réseaux sociaux qui exploitent et diffusent l'information d'ici et d'ailleurs à une vitesse incroyable.
Cette mutation est tout à fait normale si l'on se fie au jeune Serigne Oumar Faye. Pour ce trentenaire, l'évolution du monde fait qu'on ne peut plus utiliser la radio comme un médium classique.
Il n'est plus d'actualité d'écouter la radio comme le faisaient nos arrière-grands-pères ou nos parents, utiliser les radios fixes. Bon, nous les jeunes, on utilise via nos téléphones portables. On peut au fait télécharger des applications via Play Store. De ce fait, on pourra écouter la radio, transporter la radio avec nous partout où on peut aller.
La radio a pu s'adapter à la technologie, mais elle va certainement connaître le même sort que les autres médias classiques qui ont été submergés par les nouveaux médias. C'est du moins l'avis d'Alun Fall, qui estime que la mutation doit être beaucoup plus profonde pour que la radio puisse subsister.
L'objectif premier de la radio, c'était d'informer. La quasi-totalité des auditeurs n'écoutent plus l'information, mais ils s'intéressent plutôt à une forme d'émission, par exemple les faits divers, les émissions de musique et autres. J'ose dire que sans l'information, la radio n'a plus sa véritable quintessence. Il faut adapter la radio par rapport aux nouvelles exigences, c'est-à-dire les technologies par exemple, orienter l'information à certaines heures vu que les audiences ne sont pas pareilles.
Toujours présente malgré la concurrence des réseaux sociaux et de nouveaux médias, la radio est appréciée de tous même si les attentes varient selon les générations. Si les plus anciens sont nostalgiques de l'époque du poste radio et des chaleureux moments en communauté qu'il offrait, les plus jeunes espèrent une plus grande mutation de la radio. À Dakar, Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections législatives et municipales se sont tenues le week-end écoulé au Cameroun. Les observateurs parlent d'un fort taux d'abstention et le RDPC au pouvoir devrait maintenir sa majorité au Parlement. Du côté de l'opposition, le MRC de Maurice Kamto, qui avait appelé au boycott, se frotte les mains. Ceci alors que les zones anglophones continuent de subir les effets de la violence qui y sévit depuis 3 ans. Le président Biya a lancé un appel aux jeunes des régions anglophones à déposer les armes. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page de Facebook.
Sachez que des responsables politiques et militaires du monde entier sont en Allemagne actuellement pour la conférence de Munich sur la sécurité. Elle s'ouvre vendredi demain sur 3 jours. Iran, Irak, Syrie, Libye, Hong Kong seront au menu des discussions parmi d'autres points chauds de la planète. Le point avec Lionel Gaïma.
Les États-Unis ont envoyé une forte délégation à Munich. La présence du secrétaire de la Défense Mark Esper et du secrétaire d'État Mike Pompeo signalera un rejet par Washington des accusations de désengagement, estime Elizabeth Brough du Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité.
As we speak, actually, the US is...
Au moment où je vous parle, les États-Unis ont commencé leur plus grande manœuvre militaire en Europe depuis un quart de siècle, et cela mérite d'être signalé lorsque nous parlons de déconnexion ou désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe.
La plus grande épreuve de force de Washington sera probablement le dossier de l'Iran. Après l'assassinat ciblé du général irakien Qassem Soleimani au début de l'année en Irak. En représailles, l'Iran avait mené des frappes contre les bases américaines qui ont abouti à un tir accidentel sur un avion ukrainien à Téhéran. La tension est restée vive. Mais l'hôte de la conférence, Wolfgang Ischinger, espère que cette réunion offrira une bouée de sauvetage à l'accord nucléaire iranien, mal en point depuis le retrait des États-Unis.
An ihm festzuhalten, aber darauf aufzubauen.
Pour y rester et l'étendre à travers des négociations sur les systèmes balistiques, la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, l'Iran pourrait-il cesser de soutenir le Hezbollah? Ce seront des questions ouvertes et sans réponse.
Le meurtre de Soleimani a déclenché une réaction brutale de Bagdad et un vote au Parlement irakien pour demander le départ de 5000 soldats américains. L'OTAN envisage de reprendre la mission de formation des forces irakiennes pour combattre le groupe État islamique. Cette proposition est la bienvenue pour le secrétaire américain à la défense, Mark Esper.
Dans la mesure où l'OTAN peut compenser, cela nous permettra au fil du temps de ramener certaines de nos forces au pays.
Le conflit en Syrie continue de déstabiliser le Proche-Orient. Ankara menace Damas de venger la mort de soldats turcs dans les affrontements cette semaine. La spirale de la guerre en Libye est également en tête de l'agenda européen. Par contre, il y a un espoir de progrès dans les pourparlers de paix en Afghanistan. Les États-Unis et les talibans seraient proches d'un accord. Le ministre chinois des Affaires étrangères assiste à la conférence de Munich dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, des manifestations pro-démocratie à Hong Kong et des efforts américains pour stopper la montée en puissance de la société chinoise Huawei. Par ailleurs, le soutien de la Russie aux rebelles dans l'est de l'Ukraine alimente encore les tensions avec l'Europe. Récemment, la France a appelé un réengagement avec Moscou. Elizabeth Brough du Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité.
De nombreux leaders d'Europe centrale et orientale seraient très préoccupés.
Alors que les tensions mondiales sont au plus haut, les dirigeants du monde seront confinés pendant 3 jours dans un hôtel très luxueux du centre de Munich.
C'est la fin de cette édition. La technique, c'était Joselle Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. Restez à l'écoute de VOA Afrique pour un rappel dans quelques secondes des grands titres de l'actualité avec Henri Francisque. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.